Alors, ces caricatures, il faut en dire quand même quelques mots de celles que j'ai choisies, de comment et du sens qu'elles peuvent prendre. D'abord, pour être clair, je n'ai pris que les caricatures de la période de la Commune même, c'est-à-dire qui vont du 18 mars au 21 mai, étant entendu que pendant la semaine sanglante, évidemment, il n'y a pas le temps de faire des caricatures, hein. Avec quelques nuances, exprès justement en comparaison, j'ai pris quelques caricatures un petit peu d'avant et quelques caricatures un petit peu d'après, mais le but, par exemple, c'est surtout pas de vous montrer le système de représentation par le dessin et par l'image qui s'est créé après la Commune, hein. Il y a une énorme ensemble de dessins, de caricatures, etc., après la Commune, sur la Commune, que ce soit des adversaires ou des pro-communards qui réinterprètent et qui donnent quelque chose de complètement différent, qu'il serait intéressant de confronter d'ailleurs, mais qui n'est pas l'objet de ce séminaire, qui crée une certaine image de la Commune réinterprétée pendant 140 ans après. En même temps, j'ai pris aussi quelques caractéristiques d'un peu avant, parce qu'il ne faut pas oublier que la Commune est marquée en grande partie, même si c'est une période historique donnée, par la fin de l'Empire et donc une certaine image de l'Empire et le siège qui est considérable, évidemment, qui a d'ailleurs pendant le siège une éclosion aussi absolument énorme de la caricature pendant la période du siège et aussi de la capitulation ou de la paix, des traités qui suivent la guerre de 70. Mais je suis centré, donc, sauf à certaines évocations, sur la période proprement communarde. Deuxièmement, les caricatures que je vous montre dont je vais parler sont seulement les caricatures issues de, disons, pas de la Commune en tant que telle, parce que la Commune en tant que telle ne produit pas de caricature officielle. Il n'y a pas de caricature officielle. Le journal officiel de la Commune, il n'y a pas, qui serait le seul document officiel de la Commune, ne produit pas, bien que ce soit un beau monument en soi, ne produit pas de dessin. Il n'y a pas une presse officielle. Mais c'est la caricature qui paraît dans la presse favorable à la Commune ou par des dessinateurs favorables à la Commune dont je vais parler. Il y a aussi une masse à la même période, évidemment, de caricatures anticommunardes, soit à Versailles, soit parfois dans une presse qui est à Paris et qui est anticommunarde. Mais je ne souhaite pas la présenter, ce serait aussi un énorme ensemble qui donne tout à fait une commune représentée par ses ennemis qui ont. Là, ce qui m'intéresse, c'est la commune en tant que telle, ce qu'elle voulait se signifier par les images qu'elle produisait. Donc, évidemment, si c'était la commune représentée par la caricature dans son ensemble, je vous montrerai toutes les images. Là, c'est bien la commune telle qu'elle se veut représenter que je vais présenter. Trois autres remarques encore avant. Il faut bien sûr, mais je ne vais pas y insister parce que sinon on dévie très largement vers l'histoire culturelle, qui est importante, mais il faudrait rappeler toute une série d'indications. D'abord, il faut se souvenir que la photographie, si elle existe, et qu'elle servira surtout après la Commune à une propagande anticommunarde assez abondante, avec des photographies reconstituées des exécutions de l'archevêque, etc. La photographie n'est pas présente dans les quotidiens, hein. La photographie n'est pas présente au quotidien. Elle est présente déjà dans la vie des citoyens, mais elle n'est pas présente au quotidien. Ce qui s'y substitue à l'époque, enfin, pas s'y substitue, ce à quoi elle va se substituer, c'est le dessin d'actualité. Hein, certains journaux se sont fait une spécialité du dessin d'actualité qui se veulent très fidèles. Vous regardez l'illustration, vous regardez le Monde illustré, vous regardez d'autres journaux, vous aurez ces dessins qui se veulent photographiques, qui se veulent. Les dessinateurs prenaient des croquis très rapidement et ensuite chez eux, ils retravaillaient le dessin. Il y en a des magnifiques d'ailleurs qui peuvent être vus dans différents lieux d'exposition. Donc effectivement, le dessin prend. Pour l'image, c'est le seul, hein. La photographie joue encore un rôle marginal. Dans cette période, dans une période de tension, qu'on soit bien que le dessin caricature, c'est-à-dire la forme engagée du dessin, qui se prétend non plus reflet direct de l'actualité, mais une forme engagée, devient considérablement important. Je ne peux pas dire le nombre exact, mais il y a à peu près 80 à 100 dessinateurs. Évidemment, ils ne sont pas seulement caricaturistes, mais il y a 80 à 100 dessinateurs qui font des caricatures dans la période concernée. Hein. Donc, je ne nommerai pas la liste parce que c'est sans intérêt, ce qui est quand même important déjà. Hein. Je ne suis pas loin du nombre de gens qui font ça actuellement. C'est déjà un nombre très important. Et ces caricaturistes, dans une période comme celle-ci, sont quasiment en grande majorité engagés, même plus ou moins prudemment, mais quand même engagés. Un très grand nombre, d'ailleurs, dont souvent les plus connus, sont pour la Commune. Hein. Comme on le sait, on ne va pas refaire l'histoire des artistes et de la Commune, mais on sait qu'un grand nombre d'artistes plasticiens se sont engagés dans la Commune. Vous pouvez avoir des choses là-dessus si vous étudiez si vous écoutez la conférence que j'ai faite au Petit Palais, qui est disponible sur le site de la ville de Paris sur la Commune et les arts. Donc des gens comme Gilles, Pilotel et de grands noms de la caricature de l'époque sont engagés du côté des communards. Certains sont plus en retrait, comme Daumier, qui est vieillissant, qui a une certaine sympathie, mais qui reste plus éloigné. Mais il y a aussi des caricaturistes anti-communards, évidemment. Dans quoi publient ces caricaturistes et comment ça se passe? Alors, il n'y a pas de caricature au quotidien comme maintenant. Vous n'avez pas dans Le Cri du Peuple de Jules Vallès, il ne faut pas s'imaginer que vous allez retrouver une seule caricature. Il n'y a pas une caricature dans Le Cri du Peuple de Jules Vallès. Hein. Il n'y a pas la fameuse caricature qu'il y a dans Le Monde, dans Le Figaro, dans l'Humanité, etc. Vous allez trouver la caricature du jour. Ça ne fonctionne pas comme ça du tout. Ça fonctionne soit avec des sortes de canards enchaînés de l'époque, c'est-à-dire des journaux de caricatures. Il n'y a pas que des caricatures, hein, il y a aussi beaucoup de textes, mais il y a des caricatures, comme Le Fils du Père Duchesne, Le Grelot et quelques autres. Et ces journaux qui peuvent être quotidiens ou hebdomadaires, mais là, les événements font parfois que c'est parfois quotidien, les publications ou parfois tous les 2 jours, c'est assez complexe, ont des ventes très importantes. Hein. Le Fils du Père Duchesne, pendant la Commune de Paris, c'est la deuxième vente à Paris, hein, après Le Cri du Peuple. Le Cri du Peuple, sa première vente. La deuxième vente, c'est le journal de caricature, Le Fils du Père Duchesne. Toi qui voulais déjà des rapports à la Révolution, tu en as déjà évidemment un. Quand un journal s'appelle Le Fils du Père Duchesne, on voit qu'évidemment, il renvoie au Père Duchesne de la Révolution française. Il y a donc ces journaux, et puis il y a des feuilles quotidiennes. C'est-à-dire que les dessinateurs, en accord avec des imprimeurs, éditent ils appellent ça des actualités. Et c'est sur une seule feuille, alors ça c'est très coté et très recherché actuellement, hein, je peux vous dire. Il y a sur une seule feuille, il faut tirer à 100, 200, 300 exemplaires, il y a sur une seule feuille un dessin caricaturiste, ou 2 ou 3 dessins caricatures, sur une seule feuille, et qui sont vendus quelques sous dans la rue. Et généralement très, très, très bien vendus et généralement épuisés. Alors, quand vous voyez cette diversité, évidemment, vous voyez bien que ce que je vais vous dire, qui est un peu général, du point de vue d'une histoire culturelle plus stricte, devrait être nuancé suivant les auteurs, suivant les supports, et aussi, bien sûr, suivant la chronologie, parce que même si la Commune, pour nous, c'est une petite période, l'histoire même de la Commune, entre la période de l'insurrection autour du 18 mars, la période de relative installation, de gouvernement, entre guillemets, de la Commune pendant le mois d'avril, et puis la fin qui est de plus en plus marquée par des tensions, et la guerre civile qui se rapproche, bien sûr, il y a des caricatures qui sont extrêmement liées au contexte, comme toute caricature. Les caricatures, même si elles ne sont pas aussi étroitement quotidiennes que celles qu'on voit actuellement, elles sont quand même souvent liées à un contexte très précis. Un point sur lequel je n'insisterai pas non plus dans cet exposé, qui renverrait beaucoup plus à l'histoire culturelle, hein, c'est ce qu'on pourrait appeler le vocabulaire de l'image. Hein. Il y a tout un vocabulaire parfois symbolique, parfois mythique, parfois qui renvoie à des imaginaires complexes que j'évoquerai pas. Par exemple, vous repérerez de temps en temps tout un bestiaire, par exemple, qui est fréquent dans les caricatures où les adversaires sont comparés à des animaux, etc., etc., qui est très abondant. Donc il y a tout un vocabulaire qui est très, qui pourrait être étudié en soi, mais c'est pas l'objet de cette exposé où je me concentrerai sur les dimensions politico-sociales ou sociales et politiques. Alors, pour terminer cette présentation, le corpus, environ 150 caricatures. C'est pas toutes les caricatures, mais c'en est une très grande partie. Quand même, il en manque, mais je pense qu'il est largement, très largement représentatif de ce qui a pu être produit dans cette période. Ces caricatures peuvent venir de différents lieux qui ont conservé des caricatures très riches. C'est l'Institut Feltrinelli, la Fondazione Feltrinelli en Italie, l'Université d'Heidelberg qui a le fonds le plus riche, les deux fonds les plus riches sont là, qui a aussi un fonds extrêmement riche de caricatures, et bien entendu la ville de Paris dans différents lieux, qui a aussi des fonds extrêmement riches, puis des fonds plus individuels. Alors pour la communauté de cet exposé, j'ai divisé en deux parties. Une partie qui concerne des caricatures de dénonciation, qui fabriquent une image de la commune se définissant contre. Et on a souvent dit d'ailleurs que c'était écrit par Jacques Rougerie dans le livre que j'avais codirigé sur le peuple de Paris, où il a écrit la partie sur la commune, où il estime que le système de représentation de la commune est d'abord un système dénonciateur, un système contre, que le peuple de Paris se définit dans la période d'abord par opposition, notamment à la fête impériale. Et effectivement, mais c'est aussi la loi du genre, donc il faut faire attention, les caricatures sont plus volontiers dénonciatrices que positivantes. C'est aussi la loi du genre que de fabriquer, mais par ce contre, on a une image en creux aussi, car la dénonciation permet aussi de repérer certaines fabriques. Et donc dans la deuxième partie, je verrai les caricatures qui seront plus en faveur de la commune, qui montreront certaines de ses valeurs, caricatures qui sont marquées surtout par leur caractère mobilisateur. Il faut bien savoir qu'on est dans une lutte terrible et que la dimension mobilisatrice de la caricature est tout à fait essentielle pour la comprendre. En même temps, il y a très nombreuses caricatures qui montrent les deux en même temps, c'est-à-dire qui sont à la fois dans le vocabulaire du pontre et du pour. Voilà, alors, donc comme je disais, il y a des caricatures en face à face. Je pourrais presque dire, alors c'est toujours exagéré, que c'est la caricature type de la commune, la caricature la plus significative de ce qu'a été l'ensemble des caricatures contre et pour. Tiers, c'est la moitié des caricatures. C'est pas Versailles, c'est pas d'autres choses, on verra, il y a d'autres choses. Mais c'est Thiers qui est la figure centrale de cette histoire. Et en face, la figure centrale en face, c'est la Marianne Rouge. C'est pas seulement la Marianne, parce que vous connaissez les travaux de Maurice Agulon sur la Marianne, c'est la Marianne Rouge. Elle est toujours apprêtée et significativement surlignée en rouge. Et là, évidemment, vous voyez mal ce qu'il y a écrit, mais ce qu'il y a écrit en dessous, c'est « et dire qu'on voudrait me forcer à reconnaître ce crapaud-là », vous avez typiquement la dénonciation qu'on va revoir du tiers faux républicain, qui prétendument républicain, qui est un des argumentaires classiques de la commune. Et ça, c'est, vous voyez, la première page du fils du père du chêne illustré, 5 Floréal en 79, parce que la commune de Paris a adopté le calendrier révolutionnaire. La commune se représentera surtout par la Marianne Rouge. Ses adversaires, ce seront surtout Thiers en crapaud. C'est une classique présentation de Thiers. Ce n'est pas toujours la Marianne Rouge. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un journal républicain, mais de juin 1871, donc un mois après la commune, qui est très républicain, où on voit la Marianne attaquée par les chiens monarchistes. Si vous regardez bien, il y en a un où il y a marqué N Napoléon, il y a les fleurs de lys là. Donc, c'est une dénonciation des chiens, le bestiaire dans la caricature. qui s'en prennent à Marianne, hein, et qui veulent en finir avec la République après la Commune. Mais là, la Marianne est blanche en partie pour le deuil, parce que le blanc est aussi la couleur du deuil, et on voit les ruines de la Commune derrière. Mais en même temps, vous en avez beaucoup d'autres où on minimise, avant la Commune ou après la Commune, des caricatures républicaines, où on minimise le rouge. Le rouge se représente toujours par le bonnet phrygien, parce que là, le bonnet phrygien doit être rouge, mais pour le reste, là, la Marianne est beaucoup moins rouge que celle de la Commune. J'y reviendrai tout à l'heure sur cette question du rouge. Donc, j'en arrive maintenant à cette partie donc de se définir par l'ennemi, par ce contre quoi on est, donc essentiellement tiers. Tiers, hein, où on va conjuguer, hein, à la fois la personnalité, le passé et l'action politique contemporaine. Alors, bien sûr, ce qu'on reproche essentiellement à tiers, et fondamentalement, que l'on va définir. Donc, vous voyez encore une Marianne rouge, hein. Celle-ci plus accorte, ça dépend du Faustin, le dessinateur dessine toujours des Mariannes assez accortes, hein. Des Mariannes à la bébé, si on veut, hein. Ça n'empêche pas d'être lui-même un révolutionnaire tout à fait décidé. Et là, de nouveau, vous voyez ces tiers qui construit des chaussures pour la République, mais pour s'arranger pour qu'elle ne puisse plus marcher. Donc il va lui construire de mauvaises chaussures. Et en fait, il est restaurateur. Il va restaurer place les prétendants sans ouvrage. Donc il y a plusieurs prétendants royalistes, hein, qui souhaitent succéder à ce gouvernement intérimaire qui est le gouvernement de défense nationale. Et donc voilà typiquement Thiers en train de préparer la restauration monarchiste. Il faut savoir qu'il y avait un enjeu politique, hein, il faut le dire très, très fortement. Voilà une autre par exemple, hein, le dessert de Monsieur Thiers. Là il apporte la poire couronnée. La poire couronnée c'est un orléaniste, hein, ça renvoie à Daumier, hein, un vocabulaire qui court dans tout le XIXe siècle de la poire, hein, comme un des éléments clés des caricatures, de beaucoup de caricaturistes. Il y a une thèse récente sur la poire, enfin peut-être pas que là-dessus, mais qui avait bien montré l'omniprésence de la poire dans la caricature du XIXe siècle. Mais bon, là, je renvoie pas là-dessus, parce que comme je l'ai dit, c'est pas ce qui m'intéresse dans cet exposé. Et donc là, évidemment, c'est en fait Orléans, puisque Thiers était plutôt proche des orléanistes que des légitimistes, ou des bonapartistes, hein, qui étaient les trois têtes qui voulaient devenir monarques. Et là encore, vous voyez, l'animalerie, par le coq, hein, le coq qui est souvent représenté négativement dans la faune des communards. Une grande partie de ces caricatures ont une visée politique, comme toute caricature. Pourquoi ? L'important, c'est d'insister sur Thiers, que Thiers n'est pas républicain, qu'il n'est pas un vrai républicain, qu'il est un hypocrite, je vous montrerai la suivante, parce que pour la Commune, c'est le moyen de ne pas être isolé de la province. Tout l'argument de Thiers, à partir d'un certain moment, est de dire « mais non, moi je suis républicain maintenant ». Donc cette insurrection communarde qui se prétend républicaine contre les monarchistes, c'est pas vrai. Je suis devenu républicain, je vous le jure. À partir du 18 mars, vous avez des tas de textes de Thiers disant maintenant je suis républicain. Et donc, pour eux, c'est très important de maintenir la mobilisation, ce qui permet une mobilisation de masse et un écho en province, en insistant Thiers va être le restaurateur de la monarchie. Et donc, pour les grandes villes de province, pour les campagnes républicaines, parce qu'il y a des campagnes républicaines, c'est très important de soutenir l'idée que Versailles est monarchiste, et Thiers qui en est le symbole principal. Donc, par exemple, voilà une caricature qu'on ne voit pas très bien, qui s'appelle l'escamoteur, hein, où Thiers dit « Oui, messieurs, pour escamoter la République, ce n'est pas plus difficile que ça, il faut capituler, faire voter les ruraux, et le tour est fait. » Et derrière est écrit sur différentes draperies blanches, trois mots, 18 Brumaire, 20 juillet 1830 et 2 décembre 1851. Donc Thiers se revendiquant, vous voyez, d'événements très disparates, hein, dans la conscience politique, rappelant qu'il avait été révolutionnaire en juillet 1830, ce qui est vrai, contre Charles X, rappelant qu'il s'est opposé au 2 décembre de Napoléon III, mais faisant évidemment l'oubli sur un caractère qu'on verra après et qu'on va voir tout de suite. Donc l'idée constamment revient de Thiers, hypocrite, dissimulateur. Il y a la chauve-souris aussi, agit dans l'ombre, que j'aurais pu vous montrer, qui est très très présente. Autre figure de Thiers très omniprésente, c'est l'exécuteur. Donc ça, c'est des caricatures d'avant, hein, la Semaine sanglante. Hein. Cette image de Thiers est très ancienne, elle remonte à l'épisode de la rue Transnonain et aux exécutions lors d'une émeute de, vous le savez, toute une famille dans une maison par les forces de l'ordre. Et cet épisode très célèbre de la rue Transnonain a été chanté plusieurs fois jusqu'à Sartre, qui a écrit une chanson là-dessus, fait de Thiers une image de l'homme répressif qui revient constamment. Autre point important dans Thiers, évidemment, qui ne surprend pas ceux qui connaissent bien l'histoire de la Commune, c'est cette caricature qui s'appelle Thiers Ier, roi des Capitulars, et qui trône sur l'autel de la paix à tout prix. C'est l'image du Thiers antipatriote, qui a capitulé devant les exigences allemandes, devant les exigences de Bismarck, qui est mis souvent en contrepartie du courage du peuple de Paris pendant le siège, hein, qui est mis en avant. Et donc Thiers apportant enfin le ravitaillement à la population au prix de vendre la France. Ça a tendance un peu à baisser, mais c'est quelque chose qui est fréquent dans la caricature. Et c'est relié par une autre variante plus contemporaine, parce que ça renvoie plutôt au début mars, début mars 1871, c'est repris par cette caricature dans un de ces journaux que j'évoquais tout à l'heure, le Grelot, et là par un caricaturiste qui n'était pas absolument très favorable à la Commune, mais qui quand même reprend ceci, qui est Paris cuit dans son jus et qui montre l'alliance, qui dénonce l'alliance cachée entre Thiers et les Prussiens contre Paris. Donc les Prussiens et Thiers s'entendent, puisqu'il y a un deuxième siège de Paris. Il y a eu le premier siège par les Prussiens et il y a un deuxième siège par les Versaillais. Il faut rappeler que si les Versaillais étaient à l'ouest et au sud de Paris, les Allemands, ou les Prussiens, comme on voudra, sont encore au nord et à l'est. La France est occupée, hein, encore. Et donc les Prussiens sont encore au nord et à l'est de Paris, et donc il y a une sorte de siège. Normalement, ils sont neutres devant ce conflit entre Versailles et Paris, mais les communards dénoncent une alliance entre Thiers et Bismarck contre la Commune. Il y a eu un accord entre Jules Favre et le gouvernement allemand pour faire libérer les prisonniers français, revenir, regonfler les troupes de l'armée de Versailles en avril-mai 1871. Donc on dénonce cette continuité, en quelque sorte, dans la collaboration franco-allemande contre Paris. Au-delà, vous avez pu voir quand même dans toutes ces images quelques éléments de la personnalité qui apparaissent, de la personnalité au sens très très large du mot, que je n'ai pas eu le temps d'évoquer, mais qui est quand même significatif parce qu'elle permet de construire aussi certaines choses de la Commune. Il est systématiquement insisté sur le fait qu'il est petit, c'est un jeu de la caricature, il est systématiquement insisté. Vous auriez des mots comme nabo qui reviennent souvent, etc. Il est souvent insisté, et là j'ai pas mis la caricature parce que sinon ça on a déjà présenté beaucoup et je veux pas non plus encombrer l'exposé de ça, insister sur le fait qu'il est vieux. Hein, et vous avez beaucoup de caricatures qui mettent en face cette image du vieux qui est présente. Parfois, vous avez la caricature du faible, hein, parce que s'il est petit, il peut être faible. Et à côté de ça, il y a tout ce que j'ai indiqué, hein, à savoir que donc tiers, monarchiste, autoritaire, sanglant, traître à sa patrie, dissimulateur. Toutes ces caractéristiques, je les reprendrai un peu en creux dans l'image possible de la Commune. Alors, à côté de l'image de Thiers, vous avez, qui est dominante, vous avez une image de Versailles et des Versaillais, qui reprend déjà tout ça, parce que Thiers, bien sûr, est aussi un symbole, mais qui est personnalisé par sa propre vie et ses propres attitudes. De la même façon, donc dans Versailles, de façon plus générale, de nouveau, là, trop petit, caricature de très très célèbre de Pilotel, c'est la Commune, qui est très grande, très puissante, hein, vous voyez là, toujours dans ce face-à-face, hein, toujours la Marianne Rouge, hein. Et de l'autre côté, les Versaillais, plus Napoléon d'ailleurs, Napoléon le III, le petit, bien sûr, hein, toujours petit, et où on insiste, là, vous voyez, sur la faiblesse, hein, finalement, des adversaires de la Commune. Hein. Alors, les traits, ensuite, hein, de Versailles, j'y reviendrai pas, puisque c'est les mêmes que ceux de Thiers. En légende, c'est écrit « En avant, citoyens de Fouilly-les-Oies, allons corriger Paris ». C'est l'image du Versailles rural. C'est pas les grandes villes, hein. Il y a beaucoup de caricatures qui sont favorables aux grandes villes dans la Commune de Paris. Mais c'est le monde rural qui est dénoncé pour son arriération, qui est ici, on voit l'association de différents notables ruraux, sur lesquels j'aurai d'ailleurs l'occasion de revenir, le curé, le notable, et quelque chose qui est assez complexe et sur lequel il faudra que je revienne, qui est l'usage du drapeau tricolore. Donc ces ennemis de la Commune portent le drapeau tricolore, ce qui était vrai puisque l'armée de Versailles portait le drapeau tricolore. Donc évidemment la question de la symbolique du drapeau tricolore que l'on donne ici à Versailles sera complexifiée parce que le drapeau tricolore est en fait présent par certains côtés dans les deux camps. J'y reviendrai tout à l'heure. Il y a une autre image que je ne vous montrerai pas, qui est assez présente dans Versailles, qui n'est pas beaucoup présente ou rarement d'entière, mais plus sur les notables, et qui fonctionne surtout sur une personne de Versailles, qui est Jules Favre, qui est la deuxième personnalité caricaturée des Versaillais. C'est l'image de la corruption. Hein, Versailles comme un lieu de corruption est assez largement représenté, mais pas par Thiers, auquel on ne prête pas exceptionnellement ce défaut, mais en général par Jules Favre pour certaines affaires. Surabondant, et là vous voyez déjà l'image du curé, évidemment, c'est la dénonciation du Versailles clérical, qui là n'est pas possible avec Thiers, hein, parce que Thiers, tout le monde sait qu'il n'a aucun lien réel avec l'Église. Hein. Thiers a toujours été un libéral qui était éloigné de l'Église. Donc on pouvait difficilement centrer Thiers. Mais sur Versailles, dans son ensemble, là, vous voyez d'ailleurs les deux anges, le petit Thiers et le grand Jules Favre, cette bonne ville de Paris vaut bien une messe, hein, donc... si tu veux revenir à l'histoire vraiment très ancienne, enfin ça concerne quand même les modernistes, évidemment ce rappel hein, donc, et qui nous montre Versailles clérical qui est présent de façon très très fréquente aussi dans la critique communarde. Ça renvoie aussi en partie à la Révolution française, hein, cette tradition de dénonciation de l'alliance du pouvoir et de l'Église. Et que ça a été réactivé, on pourrait y revenir hein, largement dans la période du Second Empire. Alors on peut aussi, dans la présentation de Versailles, essayer de repérer les figures, en dehors de ces figures politiques, hein, et qui sont les figures sociales un peu partisans de Versailles, ou les figures de Versaillais, si on veut. Les ruraux, hein, bon ça je l'ai déjà évoqué, j'y n'y reviens pas, mais bien sûr il y en a deux essentiellement, une massivement et une autre secondairement, puis en plus quelques zones, mais qui sont marginalement. La figure principale, exacerbée, ce sont les curés, les moines, l'Église, qui est la cible principale, mais vraiment massivement, de la caricature communarde. Hein. Vous avez des dizaines de caricatures anticléricales, souvent très violentes, et parmi les plus violentes. Donc, ce sont des traits d'ailleurs assez traditionnels, prêtés à l'église, au curé, aux moines, etc., mais exacerbés et violents. Bon, bien sûr, par exemple, la lubricité. Mais vous voyez ici, c'est poussé jusqu'au bout, avec dénonciation du viol et même de l'assassinat. Un galant de façon dont ces messieurs de Saint-Laurent se débarrassaient d'une femme après boire. Hein? Il faut savoir qu'il y a eu, pendant la Commune, découverte d'ossements dans l'église Saint-Laurent, qui a fait l'objet de toute une campagne anticléricale en disant que ces ossements étaient des ossements de jeunes femmes qui avaient été violées par les curés de Saint-Laurent, hein, etc., etc. Ça n'avait pas de fondement réel, mais le fait même que ça a pu se développer et passer ensuite dans la caricature montre bien l'intensité de cette dénonciation du personnage. Alors, vous avez évidemment la bonne bouffe, mais ça c'est plus classique, hein, le moine qui mange bien, l'alcoolisme, qui sont souvent démontés. Fréquemment, le curé affairiste, hein, assimilé ici à la prostituée, c'est assez fréquent. Qu'avez-vous donc, ça c'est Moloch, un grand caricaturiste de la Commune, qu'avez-vous donc, ma chère enfant, vous semblez toute triste, à mon père les affaires vont si mal. À qui le dites-vous, ma fille? Donc, parce que dans la Commune, donc les affaires et de cette jeune prostituée et du curé marchent mal. On se dénonce. Il peut être voleur. Vous voyez là encore l'association à la prostitution. Et il vole dans les troncs. Hein, pour vivre. Donc, c'est, bien sûr, il y a aussi des caricatures qui représentent les curés ou les moines comme anticommunards, agents de Versailles, etc., etc. C'est plus rare de voir une caricature qui dénoncerait le curé comme... Dans sa propagande religieuse directement. Hein. Ce sera moins fréquent, le curé bourreur de crâne clérical sera moins présent que le curé lubrique, le curé violeur, le curé affairiste, le curé corrompu sera beaucoup, beaucoup plus dans l'esprit de la caricature que dire le curé bourre-le-crâne de la religion aux Parisiens. La deuxième grande figure qui est attaquée, nos grands généraux. Des généraux de l'armée de Versailles qui étaient d'ailleurs les généraux de l'Empire. Hein, ce sont les mêmes, il n'y a pas de différence. C'est pas là, ce ne sont pas des généraux qui sont nés comme ceux de la Révolution française. Hein, les généraux de l'armée de Versailles sont les généraux de l'Empire, ce sont les mêmes. Donc il y a toute une continuité qui est parfois soulignée dans certaines caricatures. Et donc la dénonciation des généraux, ici, le principal hein, qui était le plus attaqué était Vinoy, qui avait été gouverneur de Paris à un moment, qui est attaqué ici. Donc vous voyez, c'est une caricature juste du début de la Commune, de la veille, où on dénonce le général pour avoir interdit la liberté de la presse en coupant la tête de Jules Vallès, je ne vois plus qui est à côté. Je le vois peut-être là, si je le vois... du Père Duchesne, du Cri du Peuple, du Mot d'Ordre, donc des journaux de l'extrême gauche ou de la gauche, la gauche républicaine avancée, qui sont interdits à la veille de la Commune par Vinoy. Donc vous voyez, la caricature est très dure, et bien sûr, elle est actualisée parce que c'est la question du jour, mais vous avez aussi toute une série de caricatures qui dénoncent ces généraux par leur incapacité. Leur médiocrité pendant la guerre. Donc cette médiocrité qui est soit une médiocrité par la qualité du personnel, soit une médiocrité voulue, puisque ces généraux n'ont pas voulu vraiment défendre Paris, n'ont pas voulu vraiment se battre pendant la guerre de 1870, selon les communards. Donc là aussi, le général sert à faire fonctionner le côté abandon de la patrie par les Versaillais. Alors le dernier ennemi que je vais signaler, mais qui est beaucoup moins présent dans ces figures communardes hein, que ceux dont je viens de parler, et souvent de façon beaucoup moins violente et tranchée que les caricatures que je viens de vous montrer, qui sont quand même souvent dures, c'est la loi du genre, mais elles le sont plus ou moins, c'est la dénonciation, alors de questions un peu vastes, du riche ou du bourgeois. C'est beaucoup moins abondant, donc vous allez avoir quelques caricatures qui dénoncent alors le bourgeois avec ses attributs, enfin je ne sais pas si on en verra, des parapluies, des choses comme ça, le chapeau de forme. Grosso modo, c'est Monsieur Prudhomme, hein, donc ce qu'on dénonce, c'est sa prudence. Mais c'est pas vraiment un ennemi, le fait qu'il s'enfuit de Paris parce qu'il n'a pas envie de se battre pour défendre Paris pendant le siège ou pendant la Commune, de la même façon. Hein. Voilà. Mais c'est beaucoup plus prudent, c'est pas très méchant. Le seul qui est vraiment dénoncé de façon un peu plus fréquente et vive, c'est le propriétaire. Hein. C'est le propriétaire qui est un des personnages classiques de l'histoire de Paris du XIXe siècle et des grandes villes. Hein. Dans une ville où il faut rappeler que 95% des habitants sont locataires. Hein. Donc le Parisien, même souvent bourgeois ou petit bourgeois, est massivement locataire. Donc ce propriétaire, voilà le nez de messieurs les propriétaires devant le décret de la Commune sur les loyers. Un décret de la Commune qui, vous le savez, avait exonéré une grande partie des habitants des loyers qu'ils n'avaient pas payés pendant le siège, qu'ils auraient dû payer par rattrapage, et un des décrets de tiers qui avait rendu furieux les Parisiens en mars était qu'il exigeait que ces loyers soient payés, y compris donc les 4 mois de siège, ce qui pour eux ça faisait des sommes de loyers assez considérables, qui a en partie suscité la colère des Parisiens, c'est une des causes, et la Commune va décréter que les Parisiens ne paieraient pas leur loyer en retard, sauf les plus riches locataires, d'ailleurs. Vous voyez d'ailleurs ici, en contre ces propriétaires, qui allongent le nez, évidemment, parce qu'ils ne sont pas contents, apparaît une des figures positivantes, hein, sur lesquelles je reviendrai un peu, mais comme je n'aurai pas l'occasion de les montrer toutes, qui est le Gavroche, hein, qui se moque, le gamin de Paris, qui se moque, évidemment, de ses propriétaires. Le dernier point que je veux évoquer, c'est que ne figure jamais dans ces caricatures, mais absolument jamais, le patron ou l'exploiteur. Voilà pour ce parcours du côté de Versailles. Je vais donc passer maintenant du côté plutôt de comment les communards se présentent, comment la Commune se présente d'une manière plus positive, donc quelle valeur elle va porter dans ces caricatures, qui parfois, on l'a déjà vu, sont déjà présentes dans les caricatures négatives. Donc voilà, hein, Thiers et Jules Favre, hein, c'est toujours eux, quelle tuile, devant le 18 mars. Et bien sûr, hein, ça c'est classique, dans le vocabulaire des images de l'avenir, c'est le soleil qui se lève, hein, qu'on pourrait retrouver dans beaucoup de caricatures représentant la symbolique de la Commune. La Commune, c'est le soleil qui se lève sur l'espoir, sur l'avenir. C'est l'horizon qui se dégage. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, hein, donc je n'y reviendrai pas longuement, parce qu'on les a déjà vus assez souvent. La représentation symbolique essentielle de la Commune, c'est la Marianne rouge, hein, que l'on a constamment présente, qui symbolise donc d'un côté par la Marianne la République, donc effectivement la première affirmation de la Commune, c'est la République. Mais c'est là que c'est particulier, c'est la République rouge. On le sait, le drapeau de la Commune elle-même, c'est le drapeau rouge. La Commune adopte le drapeau rouge, non pas comme drapeau de la France, hein, il ne faut pas se tromper. La Commune adopte le drapeau rouge comme drapeau de la Commune de Paris, qui ne prétendait pas être le gouvernement de la France. On n'a pas le temps de revenir sur ces épisodes. Mais qui prétendait être donc le gouvernement de Paris. Donc effectivement, s'il y avait une autre symbolique à côté de la Marianne, et c'est pour ça que ça marche énormément, la Marianne rouge, qui représenterait la Commune d'une façon, c'est l'hyperprésence du rouge. Donc le rouge est absolument essentiel. Donc voilà le drapeau rouge sur l'hôtel de ville, sur la barricade, écrit la commune ou la mort, mais aussi l'écharpe rouge, bon, une nouvelle, une Marianne combattante à côté, hein, cuirassée, donc celle-là, mais toujours avec le rouge dominant. Vous allez trouver ça absolument partout et systématiquement. Alors pas seulement les drapeaux rouges, hein, mais vous allez avoir tout est rouge. Hein. Là, c'est la grande colère du père Duchesne qui s'en prend à deux communards en les secouant. Donc là, c'est chemise et pantalon rouge. Tout sera rouge tout le temps. C'est innombrable. Drapeau rouge, pantalon rouge, rose rouge, robe rouge, pantalon rouge, cape rouge, chemise rouge. Alors évidemment, Garibaldi est très utile pour ça. Écharpe rouge, par exemple, pour les élus et d'autres. Il y aura systématiquement la référence rouge sera omniprésente. Donc là, on est déjà un peu en rupture complexe hein, par rapport à l'héritage de la Révolution française. Cette omniprésence du rouge signifie bien quelque chose d'assez complexe, qui est très difficile à concevoir et à comprendre. Bon, on sait que le rouge était présent déjà pendant la Révolution française, mais de manière beaucoup plus incertaine et ambiguë. Hein. Qu'il a été utilisé de façon assez complexe, et il ressurgit en 1832 à l'occasion de l'épisode des obsèques du général Lamarque. Et à partir de là, le rouge, on le revoit en 1848 où les républicains les plus avancés veulent plutôt le drapeau rouge que le drapeau tricolore, c'est connu. Et il devient un symbole de la révolution poussée jusqu'au bout. On ne sait pas ce que c'est que cette révolution poussée jusqu'au bout, mais voilà, c'est le drapeau rouge, c'est le drapeau de la révolution à outrance, où les trois termes, liberté, égalité et fraternité, sont poussés jusqu'au bout. En ce sens-là, cette massification du rouge, qui deviendra ensuite le porteur, alors d'autres choses, mais en tout cas, on voit que c'est déjà omniprésent, là, fait déjà fonctionner une sorte de syncrétisme ou de dialectique de l'ancien et de quelque chose de nouveau qui n'est pas toujours défini clairement. En tout cas, ce n'est pas la caricature qui se prête à la définition de ce que serait ce rouge. La commune dénonce les antipatriotes, hein, donc se veut patriote. Vous voyez par exemple ici, c'est « plaignons-la hein, ». Où on voit les traîtres versaillais, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, accepter de l'argent du Prussien hein, au détriment de la France. Donc là, c'est une Marianne rouge qui est associée au drapeau tricolore qu'on est en train de pendre hein, ou de tirer, d'écraser par une alliance des Versaillais et des Prussiens. Donc c'est assez complexe. On voit bien que la commune, dans ses relations au drapeau tricolore, on le voit de la même façon par rapport à la Marseillaise, hein, où on reprend la Marseillaise, mais là, de façon complexe, avec une récupération, finalement, dans les deux camps, ou une utilisation dans les deux camps du drapeau tricolore. Alors, associé à ce drapeau rouge hein, et à l'idée de révolution, il y a une image de la révolution donc, qui est centrale également. La commune, c'est une révolution. En fait, c'est d'abord une révolution. Enfin, Marx disait la commune se suffit à elle-même. C'est pas exactement la même chose. On dit qu'est-ce que la commune ? Il disait bah, la commune se suffit à elle-même. On n'a pas besoin d'en dire plus. Ça ne lui empêche pas d'écrire un livre après complet sur la commune. Mais bon, c'est une façon de dire quelque chose. En quelque sorte, la commune, c'est une révolution. Point. C'est une révolution, ça suffit pour la définir. Voilà, c'est le peuple insurgé. C'est une insurrection, d'où l'importance du fait d'une insurrection, une vraie, pas 68, une vraie insurrection, d'où, bah, j'ai vécu quand même ça, donc c'est pas la même chose quand même, d'où pavés, barricades, canons, épées, fusils, omniprésents dans ce qui est associé à la représentation positivante de la commune. Bien sûr, c'est parfois la révolution qui se défend autant que la révolution qui attaque. Hein, c'est assez complexe. Alors donc, vous pouvez revenir en arrière, vous en avez déjà vu. Voilà, typiquement, le canon, la barricade. Voilà une autre. Alors voilà, face à face, hein, République. La République ou la mort, sur le drapeau rouge, hein, toujours typique, la République, mais aussi le drapeau rouge. Alors, si on essaie enfin de terminer par les forces qui... j'ai encore deux points à évoquer. Par les forces qui se retrouvent, un peu comme les forces versaillaises, du côté de la Commune. Alors, vous avez une sorte d'image du peuple. Mais alors qu'il y a un peuple extrêmement vague, qui n'est pas défini socialement. Il est défini, vous voyez, il a son pantalon rouge, évidemment. Hein. Le peuple te comprend, voit sa force. Donc voilà, les gnomes, tiers et autres favres sont écrasés par la force du peuple hein, qui va soutenir la commune. Donc là, ça sert à montrer cette puissance populaire. Ça ne la définit nullement socialement. Ce qu'on voit assez fréquemment, évidemment, cette figure en revenant en arrière, c'est le garde national, alors qui exprime le plus le peuple de Paris en figure concrète, hein, puisqu'il s'agit du peuple armé. C'est le Gavroche que j'ai montré tout à l'heure. Voilà une autre. Hein, vous voyez là, allez, une page d'histoire, mais c'est fait pendant la Commune. Et là, vous avez une Marianne Blanche, qui est assez rare. C'est fait surtout pour mettre en valeur le drapeau rouge derrière, à mon sens. Et donc vous avez cette commune avec le Gavroche hein, devant la barricade, des tiers mis en fuite, le crapaud tiers devant, mis en fuite par le peuple. Vous avez peu de personnalités qui sont mises en avant. Alors, autant la dénonciation est personnalisée, tiers, faves, vinois, etc. Hein, et toujours, vous avez quasiment toujours, du côté de la commune, c'est toujours symbolique. Hein. Alors, ça va être ce que je vous ai montré, des Mariannes rouges. Symbolique, vous avez très peu de personnalité. La commune, d'ailleurs, ça correspond à quelque chose. Hein, le refus absolu de la personnalisation chez les communards est extrêmement grand. Vous ne pouvez pas citer le nom du président de la commune de Paris pour une raison toute simple, c'est qu'il n'y en a pas. La commune n'a pas eu de président, ni de maire, puisqu'ils ne veulent surtout pas de chef, surtout pas de président. Donc ils refusent la personnalisation. Alors ça arrive quand même qu'il y en a quelques-uns qui seront montrés, mais c'est quand même très rare. Hein. C'est plutôt un peu pour s'amuser, hein, plutôt que... oui, voilà un garde national hein, typique, hein, marin de la garde nationale. Alors là, c'est le gamin en même temps que le garde national qui est montré. Hein. Alors voilà, par exemple, le fils du père Duchesne hein, qui montre le citoyen Courbet foutant en bas toutes les colonnes de Paris. On se moque un peu de Courbet. Mais bien sûr, Courbet est quand même typé rouge hein, par son écharpe rouge d'élu à la commune. Les élus à la commune ayant l'écharpe rouge. Il y a voilà une caricature du prud'homme, vous voyez, c'est pas très méchant, le bourgeois un peu inquiet devant ça, mais pas autrement avec son parapluie, son chapeau, qui s'inquiète un peu de ça, mais ça va pas loin. Alors là en fait les colonnes, hein, évidemment, c'est les colonnes publicitaires, on se moque de lui. Hein. Il y a des caricatures critiques hein, dans la presse de la colonne. Autre point que je veux noter serait l'importance, alors évidemment, dans encore une autre image communarde assez forte dans la caricature, qui est l'image de la commune égale Paris. Elle va être souvent représentée différemment. Il y aura une sorte de couronne qui est une des symboliques fréquentes de Paris. Et là, vous voyez, droit du peuple de Paris, commune. Et on souligne bien Paris. Face, encore une fois, à Thiers et Favre représentés en Prussien, hein, carrément. Je vous l'ai déjà expliqué, c'était ceci. Et donc ici, je veux être libre, Paris, c'est mon droit et je me défends. Hein. Donc là, c'est une association commune, Paris. Mais Paris, pas défini autrement que, voilà, c'est une ville qui veut être libre. Vous avez ça de façon assez... Parce qu'il y a peu, il n'y a pas d'espace de territoire qui divise Paris hein, dans ses représentations. C'est Paris qui va être montré d'un bloc... voilà Paris et Versailles se regardant en chien de faïence. Donc c'est Paris, hein. Tout le monde sait que c'est la commune, mais c'est Paris quand même. Et Paris rayonne, hein, oui. Versailles, la monarchie, mais aussi la barricade, le fusil, comme de ces éléments définis. Cette fois-ci, c'est Paris qui est mis en valeur. Donc là, la commune égale Paris. S'il y a un espace, une territorialisation, c'est pareil comme bloc. Il n'y a pas d'opposition entre les différents quartiers, il n'y a pas de critique de certains quartiers bourgeois qui apparaîtraient dans ces caricatures. Le seul cas où qu'on peut retrouver, c'est la mise en valeur de Montmartre, parce que c'est le 18 mars. Là, la commune, c'est toujours une certaine force. Hein, vous voyez, le lion, le symbole de la force du peuple, c'est une représentation de Montmartre, hein, le haut. Il y a des moulins. Mais à part Montmartre, comme dans l'épisode du 18 mars, vous ne trouvez aucune trace d'un espace autre que Paris comme ville contre, on l'a vu tout à l'heure, les ruraux. Il y a encore quelques points à côté de la République, pour terminer, qu'on pourrait noter comme thématique, parce que ces caricatures, finalement, développent assez peu de thématiques, autre que celles que j'évoquais. Alors, une thématique assez présente quand même, c'est la justice. Comprendre la justice au sens de jugement des traîtres, des voleurs, des royalistes, de tous ceux qui ont. Hein, voilà, vous avez ici des guêpes qui figurent animal négatif, des guêpes versaillaises, et vous avez celui qui a traité de paix, avec le traité de paix, je vole. Avec les taux, donc c'est Jules Favre, donc des spéculations, je vole, etc. Un autre, vive le roi. Donc la commune va faire justice, hein, de ces gens-là. C'est dans ce sens-là qu'arrive. D'ailleurs, vous avez des caricatures que je ne vous montrerai pas. Par exemple, des Versaillais au pilori, etc., etc. Ils vont, ces traîtres, ces voleurs, ces monarchistes vont devoir payer. C'est présent, mais moins que pendant la Révolution française. Hein, si on compare, on avait cette image aussi, hein, de la volonté de faire payer les monarchistes, etc., etc., ceux de Koblenz, les nobles, etc., qui est très, c'est présent là aussi, mais de façon quand même moins significative que dans la période de la Révolution française. Pour terminer sur cette présentation des caricatures, là encore, je note une extrême rareté de la commune en sens symbolique du travailleur, par opposition au patron, à l'exploiteur, etc. Il n'y en a qu'une qui est souvent montrée, mais qui donc existe, mais qui est quand même excessivement rare, excessivement exceptionnelle. En haut, vous avez celui qui possède, ça va mal, hein, sur celle de gauche, et la deuxième, vous avez celui qui n'a rien, ça va bien. Donc là, avec d'ailleurs tous les attributs pioche, etc., du cheminot ou de l'ouvrier. C'est un mélange, si on étudiait ça très attentivement, d'attributs du travailleur, hein, soit paysan, soit ouvrier. Et donc là, vous avez effectivement une opposition sociale. La commune, c'est l'arrivée des exploités, de ceux qui n'ont rien, du prolétariat, au sens du 19e siècle, contre celui qui possède et qui s'en va. Mais ça, c'est absolument exceptionnel. Ce face-à-face-là est tout à fait... Il faut toujours faire attention aux images, parce que il y a une force des images. Je vous en montre une, mais elle prend force, et après, en fait, on se rend compte qu'elle a un aspect marginal. Ce qui ne signifie pas non plus qu'elle n'ait pas eu peut-être plus d'écho, ce qui est d'une grande complexité. Hein? Une image rare peut avoir plus d'écho que 100 images sur le même thème. Donc c'est très complexe, et analyse de représentation. On n'a pas le temps d'y revenir. Alors je reviens à mon propos initial pour conclure. Donc si on voit la caricature, la commune vue par la caricature, qui lui est favorable, hein, j'insiste bien, et si on essaie de la reconstruire, à la fois par ce jeu de face à face, qui est assez fréquent, vous avez vu, soit par ce jeu de dénonciation, qui est très abondant, soit par ce jeu d'autodéfinition, mais qui est assez complexe. On peut voir qu'effectivement, il y a bien des balanciers qui fonctionnent, républicaines, antimonarchistes, parisiennes, antirurales, fortes, alors que l'adversaire est faible, patriotes, alors que les autres sont des traîtres. On aurait pu reprendre des tas de traits anthropologiques qui auraient montré que la commune est jeune, alors que les Versaillais sont vieux. Elle est anticléricale alors que les autres sont cléricaux. Elle est honnête alors que les autres sont corrompus, etc., etc. Sur certains points, ça ne marche pas trop. Vous l'avez vu, c'est cette opposition qui fonctionne, hein, sur tous ces termes que je viens d'évoquer, parisienne contre les ruraux, etc. Le contre et le pour vont. C'est plus complexe sur certaines choses. Par exemple, la commune dénonce les généraux. On l'a vu, c'est très anti-officier. Elle n'est pas anti-militariste. Vous ne trouverez pas de caricature anti-militariste en pendant. Vous ne trouverez pas de caricature pacifiste. C'est très rare. Ce n'est pas les circonstances. Il y a une colombe, une fois. Enfin, évidemment, donc si tout ça est évidemment clair, si vraiment c'est cette image qui se dégage des caricatures, vous aurez pu constater qu'elle est sociale, probablement par le rouge, encore moins socialiste. Sauf quelques exceptions, la caricature ne montre absolument pas de socialisme, sauf à pousser la réflexion sur le rouge, qui est extrêmement complexe. Parce que si nous projetons les images que nous avons du rouge actuellement ou depuis que la Deuxième Internationale a adopté le drapeau rouge comme son drapeau, sur la commune, évidemment, nous la projetterons comme étant une insurrection socialiste, à contenu socialiste. Évidemment, il y aura donc, à mon avis, encore à creuser beaucoup sur le sens de la construction du rouge dans le peuple entre 1830 et 1871 pour qu'il soit devenu cette image si fortement dominante de la commune. Autre remarque de conclusion, évidemment, on voit bien que la commune est fortement marquée par la Révolution française et par le premier 19e siècle. Hein. Alors j'évoquais le journal même, hein, le premier journal de caricature qui s'appelle Le Fils du Père du Seine. J'évoquais le calendrier républicain. Vous savez qu'au moment de la difficulté de la commune, elle a constitué un comité de salut public. Donc là, au moment où la tension a commencé, elle a créé un comité de salut public, reprise évidemment. Il y a également toute une série de gestes et de rituels républicains anti-monarchistes qui existent, comme par exemple la décision de la commune de fermer, de détruire, parce qu'on détruit dans la commune plutôt que c'est une révolution, hein, on ne ferme pas, on détruit. De détruire la chapelle en l'hommage au fils malheureux de Louis XVI qui avait été édifié à Paris, qui est encore visible, ce joli bâtiment d'ailleurs, qui avait été édifié pendant la Restauration. On pourrait en rester un peu sur cette image de la commune, mais c'est le danger des images. C'est là que je voudrais conclure. Une commune fortement marquée finalement par encore la Révolution française ou le premier 19e siècle et les luttes républicaines. Ce serait faire donner à une source plus qu'elle ne peut. Donc quand même, comme historien, on ne peut jamais croire qu'une seule source nous apporte des choses sur un champ de la réflexion, mais certainement pas sur toute la réflexion. Comme j'ai été commissaire d'une exposition sur la commune, je peux vous dire que vous pouvez très facilement faire des expositions à partir des sources qui vous donneront des images complètement différentes de la commune. Vous pourriez faire une exposition à partir de ce que je vous ai montré. Et ça vous donnerait cette image hein, d'une commune républicaine, révolutionnaire, et avec tous les traits que je vous ai indiqués. Vous pourriez faire une exposition à partir des photos, puisqu'il y a quand même eu des photos assez abondantes, et qui vous donneront une image aussi très centrée sur la commune, alors insurgée concrètement, c'est-à-dire les barricades et les incendies, hein, qui seront parce que c'est ce qui a été le plus photographié. Et donc là, vous verrez la commune dans son insurrection et dans son achèvement, c'est-à-dire, grosso modo, les incendies et la semaine sanglante, et les ruines, qui ont été énormément photographiées, mais ça tient aussi à une tradition de la ruine romantique aussi, qui a contribué à surphotographier les ruines de la commune. Il y a eu des thèses, des travaux là-dessus. Enfin, vous pourriez faire une exposition à partir des pratiques et des décrets de la commune, par exemple. Et là, vous obtenez quelque chose de complètement différent, qui sera beaucoup plus sociale. Parce que là, la pratique sociale de la commune, elle est, la pratique de la commune sera beaucoup plus sociale, au sens assez large du terme. Je vais prendre un exemple qui est tout à fait frappant. Aucune de ces caricatures dénoncent l'Église. Mais vous n'avez aucune caricature positive, par exemple, qui va dire « Nous mettons en place l'école laïque ». Or, une des actions les plus fortes de la commune, c'est la laïcisation des écoles publiques. La commune laïcise en un mois toutes les écoles publiques, avant 15 ans avant Jules Ferry, toutes les écoles publiques et rend les écoles publiques gratuites et obligatoires. Donc l'école, c'est central. Là, vous n'avez rien. On peut dire, ils auraient pu mettre une caricature. Nous avons apporté la culture, nous avons apporté la connaissance, nous avons apporté l'école, et c'est très important dans la conception, même pas socialiste là encore, mais humaniste, de, par exemple de la commune, hugolienne si on veut. Sur l'action sur le travail, il y a des décrets sur le travail de la commune. Voilà, le seul qui affleure un peu, c'est le décret sur les loyers. Mais vous avez aussi toute une action sur le travail, réquisition des ateliers abandonnés, salaire minimum, égalité des salaires entre les femmes et les hommes institutrices et instituteurs pour le premier décret d'égalité des salaires entre femmes et hommes. Vous avez une masse de décrets de la commune sur, au niveau social, plus ou moins appliqués, mais qui existent. Vous ne voyez rien. Je veux en même temps vous faire prendre conscience. Je vous présente quelque chose qui est un système symbolique présenté, qui renvoie certainement à des imaginaires, à des constructions antérieures ou plus immédiates, présenté par les caricaturistes, c'est-à-dire des dessinateurs qui sont eux-mêmes un certain milieu social qu'il aurait fallu que je vous présente plus longuement. Qu'est-ce qu'un caricaturiste et un dessinateur caricaturiste à la fin du Second Empire? Quels étaient les problèmes essentiels qu'ils se posaient et qu'ils pouvaient vivre dans des supports donnés? Qui va produire, avec les exigences de la caricature, ce que vous avez vu? Ça n'épuise en rien ce que peut être la commune. Je vous présente ça parce que c'était un petit peu neuf, mais en même temps, je vous mets en garde, hein, il n'y a d'histoire que totale. Hein, c'est ma conception personnelle, hein, qu'il n'y a pas d'histoire culturelle, pas d'histoire sociale, il n'y a pas d'histoire politique. Ça, c'est banal, ça existe. Et moi, j'ai toujours été contre. En tout cas, il y a certainement un niveau pour comprendre quelque chose. On ne peut plus rester dans sa catégorie d'histoire, quel que soit le sujet ou l'objet que l'on examine. Voilà, c'était un peu long. Merci.